Les éditions de l'Avenir présentent L'affaire Blaireau, pièce audiophonique adaptée du roman d'Alphonse Allais par Christian Martin.
Bonsoir, parjure, rien de neuf?
Rien de neuf, monsieur le maire.
Parfait. Sachez que cela continue. S'il n'y a rien de neuf d'ici la fin de l'année, je vous ferai avoir une gratification. Ouvrez l'œil et le bon, la nuit comme le jour. Faites des rondes, parjure. Faites des rondes de jour, faites des rondes de nuit surtout. Bonsoir, parjure.
Bonsoir, monsieur le maire. Vous pouvez dormir tranquille. Je ferai des rondes comme s'il en pleuvait. Je vais commencer par en faire une cette nuit. La nuit est sombre et plus silencieuse encore. Hein? Voici la propriété des Chaville. Oh, quelqu'un! Et il s'apprête à escalader le mur. Je te tiens, bougre de Galvaudeux! Ah!
Eh bien, parjure, vous en faites une tête. Que vous est-il arrivé?
Ah, monsieur le maire, une honte! Une vraie honte. Comme vous me l'aviez ordonné, j'effectuais une ronde de nuit quand, près de la propriété des Chaville, j'ai voulu arrêter un galvaudeux. Mais le bandit a résisté et s'est enfui avec ma plaque de garde champêtre. Ma plaque, monsieur le maire. Une honte.
Ça, c'est du blaireau tout pur. Coffrez-moi ce braconnier de blaireau.
Mais, monsieur le maire...
Il n'y a pas de monsieur le maire. Coffrez-moi blaireau au plus vite.
Mais enfin, arrêter un homme contre lequel ne se dresse aucune charge sérieuse, c'est grave.
Suis-je le maire de Montpaillard ou c'est vous, parjure?
C'est vous, monsieur le maire, qui êtes le maire.
Eh bien alors, coffrez-moi illico blaireau, vous dis-je. Il n'y a que blaireau dans la commune capable d'avoir fait un si mauvais coup.
Bien, monsieur le maire.
Allez, parjure, faites votre devoir. Je me charge du reste.
Silence dans la salle. Blaireau, comment plaidez-vous?
Non coupable, monsieur le président. D'ailleurs, j'ai un alibi.
Les protestations d'innocence et les alibis, voilà à quoi nous reconnaissons les coupables de profession. D'ailleurs, parjure vous a positivement reconnu comme son agresseur. Blaireau, le tribunal vous condamne à 3 mois de prison.
Nom de Dieu, de bon Dieu, de tonnerre de Dieu! C'est trop fort à la fin.
Votre mauvaise humeur, Blaireau, ne perdrait rien à s'exhaler en termes moins blasphématoires. Un mot encore, Blaireau.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Le tribunal aurait été heureux de vous faire bénéficier de la loi Béranger, mais il a pensé que, de vous-même et depuis trop longtemps, vous vous étiez appliqué plus de sursis que la magistrature tout entière de notre pays ne saurait vous en accorder.
Comment cela? Qu'est-ce que vous voulez dire?
Je m'explique. Malgré tous vos méfaits intérieurs, c'est la première fois que vous vous trouvez en réel contact avec la justice.
Des méfaits? J'ai commis des méfaits, moi. Jamais de la vie.
Ce n'est pas à moi, mon cher Blaireau, qu'il faut venir raconter ces sornettes. À moi, qui plus de 20 fois vous ai acheté du gibier en temps prohibé. Gendarme, amenez le condamné.
Entrez. Ah, notre nouveau pensionnaire. Approchez, mon ami, et asseyez-vous. Dites-moi, mon ami, que faisiez-vous avant votre condamnation?
Je bricolais, monsieur le directeur.
Eh bien, mon ami, vous continuerez à bricoler ici. Dans une prison, il y a toujours de quoi occuper un homme qui bricole.
Entendu, monsieur le directeur. Je bricolerai de manière à vous donner toute satisfaction.
J'espère, mon cher Blaireau, que pendant les 3 mois que le gouvernement de la République vous confie à mes soins, nous n'aurons ensemble que d'excellents rapports.
Je compte bien aussi, monsieur le directeur. Et puis, je vous promets que vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Aimez-vous le gibier ?
Blaireau, notre conversation prend un tour brûlant. Abordons un sujet moins dangereux. Ainsi donc, mon cher ami, vous avez battu un garde champêtre. C'est très drôle, savez-vous ?
C'est très drôle, en effet, monsieur le directeur. Mais ce qui est moins drôle, c'est que je n'ai battu personne et que j'ai été condamné tout de même, car, tel que vous me voyez, monsieur le directeur, je suis innocent.
Ah non, Blaireau, je vous en prie. Ne me la faites pas à l'erreur judiciaire. Vous cesseriez de m'intéresser.
Alors bon, c'est entendu. J'ai fichu une volée au père Parjus, je lui ai arraché sa plaque et tout. Voulez-vous que j'avoue aussi que j'ai assassiné Louis XIV pendant que j'y suis ? Moi, ça m'est égal.
Placide ?
Mademoiselle Arabella ?
Y a-t-il du courrier pour moi ?
Non, mademoiselle.
Mais pourquoi ne m'écrit-il plus ? Que s'est-il passé ? Pendant des semaines, il m'envoie ses brûlantes missives à raison de 2 ou 3 par semaine, et soudain, plus rien. S'est-il tué comme il menaçait de le faire, mon mystérieux adorateur ? Sa première lettre, je l'ai apprise par cœur. Mademoiselle, il est de la dernière urgence que vous le sachiez. Il y a un homme qui vous aime dans l'ombre. Un désespéré. Que s'est-il donc passé ?
Mademoiselle, mademoiselle de Chaville.
Monsieur le maire, belle journée, n'est-ce pas ?
En effet. Je suis fier de vous annoncer que l'ordre, qui n'a jamais cessé de régner, règne à nouveau à Montaillard. Nous avons arrêté Blaireau. Le scélérat a tenté de gravir nuitamment le mur du parc de la propriété de votre cousin. Qui sait les méfaits qu'il aurait commis s'il y était parvenu ? Mais vous pouvez dormir tranquille désormais. Il est enfermé à la prison de Montpaillard pour 3 mois.
Merci, monsieur le maire. C'est là une nouvelle réconfortante.
Bien le bonjour, mademoiselle de Chaville.
Bonne journée, monsieur le maire. Le maire s'égare sur une fausse piste. Ce n'est pas pour mal faire que ce blaireau tentait de gravir le mur du parc, mais pour me voir. J'en suis certaine. Blaireau, le braconnier, est mon mystérieux correspondant. D'ailleurs, dans une des dernières lettres que j'ai reçues, n'était-il pas écrit « Les murs du parc ne m'arrêteront pas ?» Et puis, la cessation de la correspondance est survenue au moment de l'arrestation de Blaireau. Blaireau, un braconnier. Je ne peux pas l'aimer, certes, mais je ne l'abandonnerai pas. Il serait odieux que je ne m'intéresse pas au sort d'un garçon qui a été condamné à cause de son amour pour moi. Je dois adoucir sa captivité, d'autant plus qu'il a été d'une discrétion admirable et qu'il s'est laissé condamner quand il n'aurait eu qu'un mot à dire. C'est dommage qu'il ne soit pas gentilhomme. C'est décidé. Aussitôt rentré, je lui fais parvenir un panier garni de victuailles délicates, de 10 bouteilles de vin et de cigares exquis.
Qu'est-ce que c'est ?
Un pli pour vous, madame.
Entrez, Augustine. Donnez. Cher ami, blablabla, soyez assez bonne de patienter encore un peu, blablabla. Je me trouve si bien à la campagne, chez mon vieux camarade de Chaville, blablabla. Et puis, les jeunes filles de la province, c'est très gentil. Ça vous change un peu du jardin de Paris, n'est-ce pas? Et du bois de Boulogne, et du palais de glace. De Haut-Pertuis. Ah, tu aimes le changement, vieux serin? Eh bien, moi aussi. Ah, tu te trouves bien, mon paillard. Eh bien, moi aussi, je vais y aller. Justement, j'y connais quelqu'un. Augustine!
Madame?
Préparez-moi une malle, une petite, pour quelques jours seulement. Rien que des choses simples.
Bien, madame.
Une tenue sobre et de rigueur pour aller où je vais. En prison. Oh, que ça va être drôle, mon Dieu, que ça va donc être drôle. Mais informons mes deux correspondants de mes intentions. Monsieur le baron de Haut-Pertuis, chez monsieur de Chaville, à Montpaillard, Nord et Cher. Mon cher ami, vous retardez, me dites-vous, de quelques jours votre rentrée à Paris. Cela ne saurait tomber mieux à pic, car je reçois à l'instant de fâcheuses nouvelles de la santé de ma tante de Melun, assez fâcheuses pour que je me décide à aller passer plusieurs jours au chevet de ma bonne vieille parente. Embrassez-moi sur le front, en évitant de me décoiffer. Delphine de Cerquigny. En voilà une de faite. À l'autre maintenant. Monsieur Bluette, directeur de la prison de Montpaillard, Nord et Cher. Mon vieux loup chéri, qu'est-ce que tu dirais si ta petite Alice rappliquait demain dans ton administration? Tu serais bien content, dis. Et puis, je te dois bien ça entre nous. À demain donc, vieux loup. Un télégramme bien senti te dira l'heure de mon arrivée. Ta petite pintade au gratin, Alice. Augustine?
Madame?
Vous ferez jeter ces deux lettres à la poste.
Bien, madame.
Et puis, je lui dois bien cela.
N'oubliez pas, monsieur le directeur, mes 3 mois sont presque finis. C'est demain que je dois sortir.
Je n'oublierai pas, mon cher ami. Mais avouez tout de même que votre séjour ne fut pas si pénible. Vous avez jardiné, entretenu mes fusils, soigné les chiens, fabriqué ces 1000 engins subtils qui servent à la vénerie ou à la pêche, tels que pièche, filet, bertavel, nasse rissole, vredel, tonnelle, bouquetou, gluau, épervier, panneau, seine, drège, pouzeau, pantière, contre-bougre, libouré, gangueil, etc. Quelquefois même, je vous ai prié d'aller me pêcher quelques goujons ou autres dans la petite rivière qui coule en bas du jardin directorial.
Je sais, monsieur le directeur, je sais. Je ne peux pas dire que je n'ai jamais eu l'idée d'en profiter, mais je suis un homme loyal, moi, monsieur le directeur, et je suis toujours rentré à l'heure dite.
Et je ne vous en apprécie que plus, mon cher blaireau.
Placide!
Madame?
Vous pouvez desservir.
Bien, madame. Ce n'est pas trop tôt. J'ai cru qu'il n'en finirait pas. Un verre de fine champagne ou de chartreuse? Va pour la chartreuse. Ça fait du bien par où ça passe. Voyons un peu cette très vieille eau de vie. Tiens, voici Monsieur Fléchard qui traverse le jardin et qui se dirige vers la véranda.
Toujours d'aspect souffreteux celui-là et pas riche. Pourtant, il est méticuleusement propre et non dépourvu d'élégance.
Bonjour, Baptiste.
Pardon, monsieur Fléchard, pas Baptiste. Cela ne vous fait rien, mais Placide. Je m'appelle Placide.
Ce détail me paraît sans importance, mais... Puisque vous semblez y tenir... Bonjour, Auguste. Comment allez-vous?
Décidément, monsieur Fléchard, vous faites un fier original.
On fait ce qu'on peut, mon ami. En attendant, veuillez prévenir mademoiselle Arabella de Chaville que son professeur de gymnastique... est à sa disposition.
Son professeur de gymnastique? Ah, monsieur Fléchard, vous pouvez vous vanter de m'avoir fait bien rigoler le jour où vous êtes présenté ici comme professeur de gymnastique.
La chaleur.
Un petit verre de quelque chose, monsieur Fléchard?
Merci. Je ne bois que du lait.
Un cigare, alors? Ils sont épatants, ceux-là, et pas trop secs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, monsieur Fléchard. J'adore les cigares légèrement humides. Du reste, à la Havane, où ils sont connaisseurs, comme de juste, les gens fument les cigares tellement frais qu'en les tordant, ils sortent du jus. Saviez-vous cela ?
J'ignorais ce détail, lequel m'importe peu du reste, car moi je ne fume que le Nihil à cause de mes bronches.
Eh bien moi, je ne fume que les puros à monsieur.
Cela vaut mieux que les purotinos que vous pourriez vous offrir vous-même.
Farceur, va !
Et mademoiselle Arabella, Victor, quand prendrez-vous la peine de l'aviser de ma présence ?
Mademoiselle Arabella joue au tennis en ce moment, avec les jeunes gens et les jeunes filles. C'est la plus enragée du lot. Vieille folle, va.
Je vous serai obligé, mon garçon, tout au moins devant moi, de vous exprimer sur le compte de mademoiselle Arabella en termes respectueux. Mademoiselle Arabella n'est pas une vieille folle, elle n'est ni folle, ni vieille.
Je n'ai tout de même plus un bébé, 33 ans.
Elle ne les paraît pas. Là est l'essentiel. Alors, vous croyez que mademoiselle Arabella ne prendra pas sa leçon de gymnastique aujourd'hui ?
Puisque je vous dis que quand elle est au tennis, on pourrait bombarder le château, que ça n'arriverait pas à la déranger.
Alors tant pis. Retirons-nous.
Bonjour, monsieur. Je vous salue. Dites-moi, Placide, le facteur n'est pas encore venu ?
Pas encore, monsieur le baron. Excusez-moi.
Monsieur le baron de Haut-Pertuis, j'ai bien l'honneur de vous saluer.
Comment ? Attendez que j'ajuste mon monocle. Comment vous ici, mon bon Fléchard ? Du diable si je m'attendais à vous rencontrer dans ce pays !
Je suis une épave, monsieur le baron. Et vous savez que les épaves ne choisissent pas leur séjour.
Ah, c'est juste. Les épaves ne choisissent pas leur séjour. C'est fort juste. Mais dites-moi, il y a donc quelqu'un chez les Charvis qui apprend le hollandais ?
Le hollandais ? Pourquoi le hollandais ?
Mais il me semble que quand j'ai eu l'avantage de vous connaître...
Par ma foi, monsieur le baron, vous n'y pensez plus. Cet épisode de mon existence m'était complètement sorti de la mémoire. En effet, je me rappelle maintenant à merveille. Quand j'eus l'honneur de faire votre connaissance, j'enseignais le hollandais à une demoiselle.
Ah, la belle Catherine d'Arpajon. Ah, quelle jolie fille. Ah, la Matine. À ce propos, Fléchard... Dites-moi donc, quelle étrange idée avais-tu, Catherine, d'apprendre le hollandais ? Le hollandais n'est pas une de ces langues qu'on apprend sans motif grave.
C'est toute une histoire, monsieur le baron, et que je puis vous conter maintenant sans indiscrétion. Catherine d'Arpajon avait fait connaissance aux courses d'Auteuil d'un riche planteur fort généreux, mais qui ne savait pas un mot de français. En quittant Paris, cet étranger, grâce à son interprète, dit à Catherine... « Ma chère enfant, quand vous saurez la langue de mon pays, venez-y, dans le pays, vous y serez reçue comme une reine. » Et il lui laissa son adresse. Peu de temps après, j'appris que Catherine d'Arpajon cherchait un professeur de hollandais.
« Vous vous présentâtes ?»
Quoique bachelier, je me trouvais alors sans position, je me présentais.
« Vous savez donc le hollandais ?»
Ce fut pour moi l'occasion d'en apprendre quelques bribes.
Et cette bonne Catherine, qu'est-elle devenue ?
Je ne l'ai jamais revue depuis. J'ai su seulement que la pauvre petite s'était trompée de langue. Ce n'est pas le hollandais que parlait le planteur, mais le danois.
Et qu'est-ce que vous faites maintenant, mon vieux Fléchard ?
Actuellement, je suis professeur de gymnastique.
De gymnastique ?
Oui, monsieur le baron, de gymnastique. Oh, je m'attendais bien à vous voir un peu étonné.
J'avoue que votre extérieur ne semble pas vous désigner spécialement à cette branche de l'éducation. Comment diable avez-vous eu l'idée ?
Oh mon Dieu, c'est bien simple. À la suite de déboires de toutes sortes, j'ai été devenu neurasthénique.
Comment dites-vous cela ?
Neurasthénique, monsieur le baron. Les médecins me conseillèrent de faire de la gymnastique, beaucoup de gymnastique, rien que de la gymnastique. Une, deux.
Excellent, en effet, la gymnastique.
Excellent, oui. Mais voilà. Mes modestes ressources ne me permettant pas de me livrer exclusivement à ce sport, j'eus l'ingénieuse idée d'en vivre en l'enseignant, et je m'établis professeur de gymnastique.
Ah, ce n'est pas là une sotte combinaison, mais... Avez-vous réussi, au moins ?
Paris, non. Trop de concurrence. Alors je suis venu ici, à Montpaillard.
Est-ce que votre aspect un peu chétif ne vous fait pas de tort auprès de votre clientèle?
Pourquoi cela, monsieur le baron? Aucunement. Il n'est pas nécessaire pour être un bon professeur de gymnastique d'être personnellement un athlète. De même qu'on peut enseigner admirablement la comptabilité sans être pour cela un grand négociant.
Votre raisonnement est des plus justes, mon cher Fléchard.
D'ailleurs, afin d'éviter le surmenage, le terrible surmenage, je recrute principalement mes élèves parmi les dames et les demoiselles. Quelques-unes sont devenues très fortes et même plus fortes que moi, ce qui, entre nous, ne constitue pas un record imbattable. Ainsi, mademoiselle Arabella, avez-vous vu mademoiselle Arabella au trapèze?
Ah, je l'ai aperçue, mais sans y prêter une grande attention.
Vous avez du tort, monsieur le baron. Mademoiselle Arabella au trapèze, c'est l'incarnation de la force et de la grâce.
Vous faites bien de me prévenir. La prochaine fois, je regarderai.
Le spectacle en vaut la peine. Oui, monsieur le baron, l'incarnation de la force de la grâce.
Oh, Fléchard, quelle chaleur! Seriez-vous amoureux de votre élève, comme dans les romans?
Lentez, monsieur le baron, amoureux de mademoiselle Arabella de Chaville, moi, un humble professeur de gymnastique.
Le courrier de monsieur le baron.
Vous permettez, mon cher Fléchard?
Je vous en prie, monsieur le baron. D'ailleurs, je m'en vais.
Sans adieu, Fléchard.
Tous mes respects, monsieur le baron.
Monsieur Fléchard, mademoiselle Arabella vous prie de repasser sur le coup de 5 heures pour sa leçon de gymnastique.
Il fait une de ces chaleurs. Beaucoup trop chaud pour s'adonner au tennis.
Prenez place sur la véranda. Nous y serons bien mieux.
Depuis Henri IV, oui, messieurs, depuis Henri IV. À part les jours de marché, il n'y a jamais eu le moindre attroupement dans les rues de Montpaillard.
Vraiment?
Oui, monsieur de Haut-Pertuis. Pas le moindre attroupement. Et tant que j'aurai l'honneur d'être le premier magistrat de Montpaillard, il continuera d'en être ainsi. J'aimerais mieux voir ma ville en cendres qu'à la proie du désordre.
Vous êtes bien radical, monsieur le maire, pour un conservateur.
En matière d'ordre, mon cher Guyoche, on ne saurait être trop intransigeant. Et si vous et votre parti essayez jamais de troubler Montpaillard, vous me trouverez sur votre chemin.
Monsieur Guyoche a donc un parti?
Parfaitement. Vous pouvez contempler en monsieur Guyoche le chef du parti révolutionnaire de notre ville. Un parti qui compte 17 membres. Chaque fois que M. Guyoche se présente aux élections, il y a 18 voix à Montpaillard. Les 17 voix des révolutionnaires, plus la sienne. La dernière fois, il n'y a eu que 17 voix parce qu'un révolutionnaire était malade.
17 révolutionnaires sur une population de 10 000 habitants. Il n'y a pas encore péril en la demeure. Mais dites-moi, mon cher Guyoche, quelle drôle d'idée pour un homme bien élevé comme vous de vous mettre dans ce parti-là.
Ou comme tous ces pareils, Maître Guyoche n'est qu'un ambitieux. Un de ces ambitieux qui n'hésiterait pas à provoquer des attroupements dans la rue pour devenir quelque chose dans le gouvernement.
Pardon, mon cher Dubenoît.
Ah non, pas de discussion politique ou religieuse.
Parlons d'autre chose. Monsieur le baron, comment trouvez-vous Montpaillard? D'un ennui, n'est-ce pas?
Mademoiselle, je me permettrai de n'être point de votre avis. Cette petite ville de Montpaillard n'est nullement désagréable. Je vous affirme, depuis une 8aine de jours que je l'habite, je ne m'y suis pas ennuyé une minute.
Si vous y étiez comme moi depuis 20 et quelques années, vous parleriez autrement. Enfin, ce qui est fait est fait. Je terminerai ma vie ici entre mes cousines et mon cousin comme une vieille fille.
Oh, mademoiselle!
Je parle pour plus tard.
Ah, dame! Il est certain qu'à la longue...
Et vous? Vous allez rentrer à Paris?
Pour quelques jours, avant de partir à la mer.
Retrouvez vos amis, votre club, vos maîtresses.
Mes maîtresses? comme vous y allez.
Ne vous en défendez pas, c'est si naturel pour un homme.
Alors, mettons ma maîtresse et n'en parlons plus.
Jolie ?
Très jolie. Et d'un désintéressement.
Vous me croirez si vous voulez, baron, mais je n'ai pas le courage de blâmer ces femmes-là.
Moi non plus.
Elles n'ont peut-être pas une réputation intacte, mais elles sont déshonorées dans des conditions si charmantes. Et puis, elles mènent une existence pleine d'imprévus et de mouvements, tandis que nous... Le rêve, voyez-vous, baron, ce serait de concilier les vieilles vertus familiales de nos provinces avec une vie un peu accidentée. Mais c'est bien difficile.
On finira par trouver une combinaison.
Que de fois il m'arrive de songer à tout cela quand je suis seule dans le parc à me promener silencieusement. La solitude m'oppresse. Mon esprit se perd dans des rêves insensés. Un trouble étrange m'envahit.
Et alors, qu'est-ce que vous faites ?
Je fais de la gymnastique.
Je parie qu'Arabella te raconte ses malheurs.
Pas du tout ! Mademoiselle Arabella ne m'a pas encore donné cette marque de confiance. Je le regrette. Hein.
N'écoutez pas Hubert, baron, il se moque de moi. D'ailleurs, ici, tout le monde se moque de moi.
On ne se moque pas de toi, Arabella. On te plaisante un peu parce que tu es terriblement romanesque.
Mais c'est fort bien d'être romanesque. Toutes les femmes devraient être romanesques. Moi, si j'avais été femme, j'aurais été romanesque.
Oui, mon vieux. Mais l'aurais-tu été au point de nourrir pendant 3 mois un prisonnier dans la prison de Montpaillard, de lui envoyer tous les jours un panier de provisions avec du vieux Bourgogne et des cigares de la Havane?
Comment, Albert, tu savais?
Certainement. Oui, je le savais. Et je t'en parle aujourd'hui uniquement parce que c'est demain le dernier jour du condamné.
On va le guillotiner?
Non. Le relâcher, tout simplement. Ces 3 mois sont finis.
Cette aventure me paraît des plus pittoresques.
J'espère que tu ne vas pas raconter à Monsieur de Haupertuis.
Si, si. Je vais lui raconter l'histoire, à ta grande honte. Figure-toi, mon cher, qu'Arabella s'est montée la tête pour une espèce de mauvais sujet.
N'en croyez pas un mot, baron.
Les éditions de l'Avenir vous ont présenté L'affaire Blaireau, pièce audiophonique adaptée du roman d'Alphonse Allais. Les interprètes, Aldor dans le rôle de Jules Fléchard, Alcadi dans le rôle de l'Anglais numéro 1, André de Gouffroy dans le rôle de Monsieur Devoix, Bruissement dans le rôle de la jeune fille, Carole dans le rôle de Delphine de Serquigny alias Alice, Christian Martin dans le rôle de Blaireau, du commis greffier et de l'homme 2, Christophe dans le rôle de Monsieur Bluette, Christophe Hubert dans le rôle de Hubert de Chaville, Claude Couveau-Farqui dans le rôle de Madame de Chaville, David Lawrence dans le rôle de l'Anglais numéro 2, Ezwa dans le rôle d'Arabella de Chaville, Fred dans le rôle de Parju, Kael dans le rôle de Placide, K00 dans le rôle d'Augustine, Mario Fecto dans le rôle de l'Homme 1, Nadine dans le rôle de Lucie, Pierre dans le rôle de Victor, Quentin Fauville dans le rôle de Maître Guilloche, René Lepasse dans le rôle du procureur, Sergio Baldelli dans le rôle de Le Rechigneux, Silverson dans le rôle de Dubenoît, Stanley dans le rôle du baron de Haupertuis et Sylvie dans le rôle de la dame. Cet enregistrement est distribué sous contrat Creative Commons et est une production 2010 des Éditions de l'Avenir. Merci de votre attention. À bientôt.